Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Je suis Nolan.
Je suis Benjamin.
Je suis Nathan.
Aujourd'hui, nous sommes allés au village Arte Flamenco situé au Hall de Mont-de-Marsan. Nous avons rencontré Anna et Maria Pérez, danseuses et chorégraphes de flamenco.
Bonjour Anna. Pourquoi vous êtes-vous initiée au flamenco et pourquoi vous en avez fait votre travail ?
C'est la dame à côté de moi qui m'a initiée au flamenco. C'est ma maman, qui est elle-même danseuse et professeure de flamenco. Et du coup, elle a ouvert un lieu quand j'étais toute petite, quand j'avais 2 ou 3 ans. Et ce qui a fait que j'ai grandi dedans, j'ai grandi dans cet univers et j'ai commencé à danser quand j'étais enfant, sans même m'en rendre compte, je crois. Et puis quand j'ai grandi, c'est devenu une passion et j'ai voulu en faire mon métier très vite.
Et vous, pourquoi vous êtes-vous initiée au flamenco ? Est-ce qu'on parle de vous ?
Oui, alors moi je suis la maman et je m'appelle Maria Pérez et je me suis initiée au flamenco parce que j'étais étudiante en espagnol à l'université d'Aix-en-Provence et mon professeur Benito Pellegrin m'a fait découvrir cet art que je ne connaissais pas et je suis tombée amoureuse du flamenco, d'une part par le contenu littéraire des textes, ce qui est quand même une approche particulière, et après parce que j'ai vu au cinéma un film avec Antonio Gades, c'était Les Noces de sang. C'est dans les années 80 tout ça. Et depuis, j'ai donné ma vie à cet art qui me passionne.
Vous avez commencé le flamenco dans un tableau à Marseille. Vous avez aujourd'hui 33 ans. Comment s'est déroulée votre carrière professionnelle ?
Alors, le tableau à Marseille, il est tenu par mes parents, par ma maman qui est là. Il s'appelle le Centre Soléa. C'est une école de flamenco. C'est aussi un tableau. C'est un lieu dédié au flamenco entièrement. Et donc j'ai dansé. Ben effectivement, j'ai dansé dans ce tableau pour la première fois. J'avais 9 ans. Ensuite, quand j'étais enfant et adolescente, je suivais aussi une formation en danse contemporaine auprès du groupe Grenade, dirigé par Josette Baïz à Aix-en-Provence. J'ai passé mon bac à 18 ans et je suis partie m'installer à Séville, où j'ai vécu 8 ans et je me suis perfectionnée. J'ai travaillé dans des tablaos là-bas, dans des compagnies. Je revenais en France régulièrement pour travailler dans la compagnie de Luis de la Carrasca, qui est basée à Avignon, avec qui j'ai beaucoup voyagé, beaucoup tourné, vécu des expériences magnifiques et très enrichissantes. Et je suis revenue dans ma ville natale à Marseille en 2018, où j'ai créé ma compagnie pour faire mes propres créations et des collaborations très intéressantes aussi avec des musiciens, des orchestres jazz, classiques. Je suis dans la compagnie de Patricia Guerrero aussi depuis 2 ans. Et là, aujourd'hui, j'essaie de me consacrer uniquement à mes créations qui me prennent beaucoup de temps et qui sont très basées sur la recherche, l'expérimentation, le mélange des... Non, c'est pas du mélange de musique ni de danse, c'est plutôt une collaboration avec José Sanchez, un guitariste, et on fait un travail très très pointu où on développe notre propre vocabulaire.
Qu'est-ce que vous aimez dans le flamenco ?
Moi, personnellement, ce que j'aime dans le flamenco, c'est que c'est un art transversal à la danse, au théâtre, à la musique, à la poésie, au chant. Et surtout, que ce qui me plaît, c'est que pour moi, c'est l'expression la plus aboutie de tout le pourtour méditerranéen. Et que c'est l'expression d'un peuple meurtri, qu'on appelle, pour le dire vite et mal, le peuple exclu du pouvoir en place au XVIe siècle, un pouvoir catholique en Andalousie. Alors donc les gitans, les arabes, les juifs étaient exclus de ce pouvoir, les noirs africains. Tous ces gens-là se sont regroupés à cette époque-là pour crier leur douleur, un peu comme les noirs africains en Louisiane, en Amérique, quoi, pour le jazz. Voilà. Donc le flamenco, c'est le cri d'un peuple meurtri. Et donc c'est quelque chose de très profond et d'universel. C'est-à-dire que n'importe qui écoute la lamentation pour le Seguilla d'un chanteur va être bouleversé parce qu'il parle de quelque chose de très très fort. Voilà. Et pour moi, comme je vous le disais, c'est l'art le plus abouti de tout le pourtour méditerranéen. Voilà.
Et toi, Anna, qu'est-ce que tu aimes dans le flamenco ?
Alors moi, ce que j'aime dans le flamenco, j'aime beaucoup de choses, mais je crois que ce qui me fascine le plus, comme dans d'autres danses que je suis en train de découvrir, c'est l'accès à cet état de transe, en danse et en musique aussi. Et ça, je trouve ça incroyable, et c'est ce que je recherche à chaque fois que je suis sur scène. J'adore quand je descends de scène et qu'on me dit « Ah, t'as vu, Anna, ce que t'as fait là, c'était génial !» et que je sais plus du tout ce que j'ai fait et que j'étais juste dans une autre dimension et que j'ai vibré avec les musiciens, avec le public. Voilà, ça, c'est ce que j'adore le plus.
Et est-ce une richesse pour vous, Anna, d'avoir des origines caribéennes et espagnoles? Et qu'est-ce que cela vous a apporté?
Je pense que c'est une richesse pour tout le monde d'avoir des origines, et surtout de les connaître un petit peu. C'est ça qui fait la différence. J'avoue que j'y pense pas forcément quand j'y danse, ou j'essaie pas de m'en rapprocher ou de montrer mes origines, mais le fait de les connaître, ça me permet de me connaître mieux moi-même et d'accéder à une plus grande liberté dans la danse et voilà, d'explorer plus de cultures, d'avoir plus facilement accès à d'autres cultures, le fait d'être moi-même un petit puzzle culturel, voilà.
Parlez-vous espagnol ou d'autres langues, étant donné que vous avez des parents d'origine différente ?
Je parle espagnol et français. J'aurais bien aimé parler mieux l'anglais, mais je fais quelques efforts.
Moi, je tiens à préciser qu'Anna est d'origine espagnole, caribéenne, de Guadeloupe, et surtout capverdienne, voilà, parce que c'est important. Et les racines africaines sont très fortes en elle.
Est-ce que d'aller à Séville pour perfectionner votre flamenco vous a fait beaucoup progresser ?
Oui, énormément. C'est un peu comme si j'avais fait mes études supérieures à Séville. D'ailleurs, je suis arrivée à 18 ans. Et là, j'ai pris des cours de danse avec tous les maestros qu'il y avait. J'ai rencontré des danseurs qui étaient mes amis et rien que de les voir danser, mais j'apprenais énormément. On se partageait des chorégraphies, on s'échangeait des pas. Et surtout, de danser dans des tablaos, c'est-à-dire de danser sur scène avec des musiciens que je ne connaissais pas, sans savoir quelle danse j'allais devoir improviser. Ça, c'était la meilleure formation possible.
Comment vous transmettez des émotions au public en faisant du flamenco sur scène ?
Alors moi, je suis une danseuse de flamenco, mais je n'ai pas eu une grande carrière de danseuse. Je me suis surtout consacrée à la transmission, puisque je suis enseignante avant tout. Je suis aussi professeure d'espagnol, comme vous le savez. Et j'ai créé un festival qui s'appelle le Festival Flamenco Azul, le flamenco bleu. Donc c'est un flamenco un peu décalé qu'on propose dans la région de Marseille au mois d'avril. Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, pour moi le flamenco est l'art le plus abouti de tout le pourtour méditerranéen. Le fait qu'il soit transversal à toutes ces disciplines le rend très puissant. Et j'avoue que moi, je le transmets en proposant des formations, en proposant des spectacles et en proposant des choses auprès d'un public exclu, comme des trisomiques que je fais danser régulièrement et qui sont incroyables, et comme des projets autour de femmes réfugiées ou en détresse sociale, ou des femmes victimes de violences conjugales. Bon, c'est un petit peu fort pour vous tout ça, mais peut-être que vous pouvez capter que le flamenco prouve que par lui-même, il est capable de s'adresser à des gens qui sont éloignés de la culture, parce qu'il a plein de portes d'entrée. Voilà.
Vous, Anna, comment vous faites, vous qui êtes plus sur scène, du coup, comment vous faites pour donner des émotions au public, que le public, par exemple, aille vous voir à la fin du spectacle en vous disant que c'était incroyable ou qu'ils en ont pris plein les yeux?
Alors, j'essaie d'être le plus possible en vérité avec moi-même, avec le public, et je cherche pas à raconter des histoires, je cherche pas à leur transmettre dès le départ des émotions, mais en fait je suis dans une écoute maximale j'écoute les musiciens qui m'accompagnent, j'écoute absolument tout, j'écoute les silences et j'écoute surtout ce que ça me produit, ce que ça produit en moi émotionnellement, dans le corps, et j'essaie de transmettre spontanément ce qui me traverse. Et du coup, le fait de ne pas être dans une quête de quelque chose, mais de juste laisser passer, je pense que le public reçoit une émotion directe, sans filtre. Et c'est un échange d'émotions, en fait.
Quand vous dites que vous écoutez tout, même le silence, ça veut dire quoi ?
Ce sont de très belles questions. La musique, elle est... la musique flamenca, surtout, est très riche. Il y a beaucoup de notes. Et je pense que s'il n'y a pas de temps en temps quelques silences, on n'arrive pas à les apprécier. Et on n'arrive pas à apprécier la musique, mais la richesse de cette musique fait aussi qu'on apprécie les silences. Et c'est pour ça que des fois, dans les silences, on entend des « olé ». Parce qu'en fait, les silences viennent nous faire du bien. Et un musicien, un bon musicien, ben, en fait, il est hyper connecté à ces silences.
Et si je peux me permettre, les silences sont de la musique. Et que dans un concert, les silences sont très, très précieux, dans n'importe quel concert. C'est là qu'on sent qu'on est en communion tous ensemble.
Voilà. De même que l'immobilité dans la danse.
Ou du blanc sur la toile d'un peintre.
Vous faites donc beaucoup de danse, Anna, mais est-ce que vous avez pratiqué un petit peu de musique ?
Alors, c'est ma grande frustration. Je pratique aucun instrument de musique, mais par contre, bon, on peut dire que je suis musicienne quand même avec mes pieds. Ce que je fais avec mes pieds, c'est de la percussion je travaille même sur pouvoir faire des sons différents. Je travaille avec des sonorisateurs qui traitent le son des pieds pour que ce soit comme, vraiment un instrument de musique. Et sinon, ben pour le petit secret, c'est que j'essaie de me mettre à la guitare, mais j'ai beaucoup de mal. En plus, je suis gauchère, mais j'adore ça.
Merci à Anna et Maria Pérez d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Partons maintenant à la rencontre de Patrick Vellito, un des organisateurs du festival.
Comment choisissez-vous vos artistes ?
On va d'abord voir certains artistes ou les artistes que l'on pense qui pourraient rentrer dans la programmation du festival. Donc on est à Mont-de-Marsan, il y a un comité artistique de trois, on va dire, conseillers artistiques. Donc voilà, on se répartit, que ce soit en France ou en Espagne. Quand il y a des festivals, c'est plus pratique. Et puis à tous les trois, on a quand même déjà une grande expérience des artistes. On connaît parfois même les grands-parents, les parents, les fils, même les petits-fils. Donc on connaît bien les artistes qu'on suit depuis très longtemps. Et puis... voilà, quand toutes les étoiles sont alignées, que tout est bien, le spectacle est bon, que c'est une bonne soirée, parce que pour certaines, pour le chant et la guitare, bah, des fois il y a des bonnes et des mauvaises soirées. Et on est plus ou moins bien en forme, comme nous tous. Et à partir de là, on se parle. Il y a des points de rencontre où on met sur la table les différents spectacles qu'on a vus. Et puis, on a chacun nos goûts aussi, nos préférences. Et puis après, on ne fait pas une synthèse, mais on essaye. Il y a des spectacles qui font l'unanimité, ou des artistes qui font l'unanimité. Et à ce moment-là, bah, on les inscrit dans la programmation. Et ensuite, après, on voit dans quel lieu, à quel moment, à quel horaire, et leur disponibilité. Et aussi que tout ça ne se fait pas gratuitement. Est-ce qu'ils sont libres? Combien ça coûte? Il y a aussi les décors, il y a tout ça. Tout ça, c'est un prix. Hein. Il y a plein de choses qui constituent un spectacle. Il y a l'enthousiasme qu'on peut avoir, nous, quand on les écoute. Et après, il y a la réalité qui est la disponibilité, le prix, les décors et le coût total. Et le budget, il faut que ça rentre dedans. Voilà.
Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir être ici et faire du flamenco ?
Le critère, c'est d'avoir une qualité qui est une qualité musicale et artistique de niveau et qu'il y ait une transmission. C'est-à-dire que il faut que le spectacle puisse faire passer quelque chose, une émotion, pas forcément un message, mais une émotion, voilà, qui est une vérité, une sincérité des musiciens, de la danseuse, de tout ce qu'on veut. Voilà.
Merci à Patrick Vellito de nous avoir accordé du temps.
Pour terminer, nous sommes allés faire un tour sur la scène du village du festival à la rencontre des techniciens du son.
Est-ce compliqué et long de sonoriser un spectacle de flamenco ?
Ça dépend du nombre de musiciens qu'il y a sur le plateau, en fait, et du nombre d'instruments. Donc c'est variable, ça peut être une guitare, ça peut être comme hier, une batterie, basse, guitare, percussion et plusieurs voix. Voilà.
Faites-vous automatiquement des balances sur les spectacles de flamenco ?
Ici oui, mais ça peut arriver dans d'autres configurations de ne pas faire de balance. C'est ce qu'on appelle un line check, C'est-à-dire qu'on branche, on teste, on voit les micros et on fait en direct.
Combien de temps prennent des préparations d'un spectacle de flamenco?
Après, il y a toute la phase de montage, du son, de la lumière, de la structure. Donc ça, c'est généralement, c'est sur 2 jours. Il y a 1 jour pour monter la structure, la scène, et 1 jour pour monter lumière et son.
Est-ce toujours la même équipe qui prépare les festivals ici à Arte Flamenco?
Nous, ça fait 2 ans qu'on fait ça, et oui, c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes personnel.
Pour travailler sur le festival, faut-il obligatoirement parler espagnol?
Oui, ça c'est la condition pour les techniciens, pour accueillir les compagnies. Il faut parler espagnol.
Avez-vous un lien particulier avec le flamenco?
Pas spécialement. Après, je suis musicien à la base, donc j'en ai fait un petit peu. Enfin, c'est une musique que j'apprécie, donc oui, c'est mieux d'avoir un peu la culture du flamenco, quoi. Pour mixer, pour connaître un peu le style, quoi.
Et pour terminer, au sein de votre équipe technique, y a-t-il que des professionnels?
Oui, on est tous professionnels, intermittents du spectacle.
Merci à tous d'avoir écouté cette série de podcasts sur Arte Flamenco, édition 2024. Merci à Madame Herman, Monsieur Pomares, Madame Brouquer, Céline, David et Lilian de nous avoir accompagnés sur ces 3 journées. Et merci à Laurent qui était notre technicien à France Bleu. Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles émissions.
Larga vida al flamenco.
Olé!
Mi chica!
De hielo en la arena, se quedó como el agua mi alma, pa' mojarme con ella en el alba, pero se congeló cuando vio que se la llevó el calamar, este tipo largo,
se la llevó el calamar,
con cara de gargo,
se la llevó el calamar,
mientras la besaba,
se la llevó el calamar,
convertido en palo,
se la llevó el calamar,
chivirique, chivirique, con
el calamar,
chivirique, pongo
la
iba a parar, chivirique, chivirique, con
el calamar,
chivirique, pongo
la
iba
a parar,
chivirique, chivirique, con
el calamar.
Soy libre, libre como el aire que me da en la cara, libre como el grito que de mi alma salió cuando vio
que se la llevó el calamar, este tipo largo,
se la llevó el calamar,
con cara de gargo,
se la llevó el calamar,
mientras la besaba,
se la llevó el calamar.